Culture France. RFI, grand reportage.
Anne Toulouse.
À Belmonte, une église située au cœur du quartier des studios d'Angers sur Vendée Nashville, l'on entend le dimanche matin les mêmes voix qui ont résonné dans les nightclubs la veille au soir.
Je pense que si quelqu'un se cachait sur le siège arrière de ma voiture sans que je sache, il me prendrait vraiment pour un fou parce que tous les jours j'ai une conversation avec Dieu comme s'il était là, parce qu'il est vraiment là.
Cette relation constante avec Dieu est le propre des chrétiens évangéliques, que ce soit dans l'église ultramoderne construite avec l'argent de la country music à Nashville, ou dans l'ancien hangar d'un quartier noir d'Atlanta où prêche le révérend Sean Smith.
Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen!
Je crois que tout chrétien doit être évangélique, en ce sens qu'il répand la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ.
En effet, la définition originelle est simple, mais elle devient confuse lorsque la sociologie et la politique s'en mêlent. David Gashi, pasteur baptiste et professeur d'éthique chrétienne à l'université Mercer à Atlanta, lui-même chrétien évangélique, est l'un des spécialistes de cette communauté.
Les chrétiens évangéliques peuvent être définis de plusieurs manières. Quelquefois, ils sont définis de manière théologique. Un chrétien évangélique est un protestant qui s'en tient à des croyances traditionnelles, l'affirmation chrétienne classique, Jésus est le Fils de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts, est mort pour nos péchés, il est la voie du salut, et tout cela. Vous pouvez aussi les définir en tant que membres de dénominations qui sont considérées comme évangéliques par les sociologues. Vous pouvez aussi les définir par le fait qu'ils se définissent ainsi eux-mêmes. Si vous demandez à quelqu'un dans un sondage « Êtes-vous un chrétien évangélique ?» et qu'il vous répond « Oui », généralement, les enquêteurs ou les sociologues ne vont pas chercher plus loin.
Les définitions sont suffisamment floues pour que ce segment de la population soit difficile à quantifier. Il représenterait néanmoins, au sens large, plus du tiers de l'électorat américain. Dans l'un de ses livres, « L'avenir de la foi dans la politique américaine », le professeur Gashi a étudié son évolution.
Dans les années 70, un bloc évangélique conservateur a émergé de façon très visible. On l'appelle la droite chrétienne. Ses dirigeants ont été Jerry Farwell, aujourd'hui disparu, et Pat Robertson. En étudiant toutes les données, je pense qu'ils représentent à peu près la moitié des 60 à 75 millions de chrétiens évangéliques que l'on trouve aux États-Unis. Mais ils ont fait entendre leur voix très fort, ils ont été très visibles, ils savent comment attirer l'attention des médias, et pour beaucoup de gens, ils représentent les chrétiens évangéliques. Il y a aussi peut-être 20% d'évangéliques qui sont politiquement à gauche, et même très à gauche. Ils se préoccupent de la pauvreté, de l'écologie, des questions raciales. Ils sont opposés à presque toutes les formes de guerre. Enfin, dans mon livre, j'estime qu'il y a environ un tiers d'évangéliques modérés. Ils ont tendance à se ranger du côté des positions conservatrices de la droite sur des questions comme l'avortement, mais ils ont aussi une conscience écologique, se préoccupent des droits de l'homme et sont plus réservés sur la question des guerres.
La connotation avec la droite conservatrice fait que les églises noires, qui sont en majorité théologiquement évangéliques, n'assument pas volontiers cette étiquette. C'est le cas du révérend Gerald Durley, cet ancien basketteur professionnel, ancien membre des Panthères Noirs et aujourd'hui militant pour l'élection de Barack Obama, dirige une importante congrégation de baptistes du Sud à Atlanta.
C'est malheureux qu'aujourd'hui, quand on parle du mouvement évangélique, on pense davantage à des gens d'extrême droite. Je suis tellement loin de tout cela, tellement loin. Les évangéliques ou le mouvement évangélique, cela veut dire ce que Jésus a dit à Matthieu dans l'Évangile. Va à travers le monde, prêcher et enseigner. C'est cela, évangéliser. Mais les gens s'en sont emparés et en ont distordu le sens. Quand maintenant vous parlez du mouvement évangélique, cela évoque la droite. Nous devons comprendre les différences théologiques et idéologiques entre ce que les États-Unis ont dépeint comme le mouvement évangélique et la façon dont nous nous percevons en tant que serviteurs du Christ.
And what we perceive ourselves as just a servant of Christ.
Les églises, évangéliques ou non, n'endossent jamais de candidats ou de partis politiques car cela leur ferait perdre leurs privilèges fiscaux. En cette période électorale, l'université Bob Jones a décidé, elle aussi, de rester neutre. Installée à Greenville, dans les montagnes de Caroline du Sud, elle est considérée comme le bastion du conservatisme religieux. Robert Loach y est professeur depuis 25 ans.
Le fondateur de notre université était un évangéliste qui voyageait un peu partout aux États-Unis dans les années 20. Et il a vu beaucoup de jeunes gens, jeunes femmes qui avaient perdu un peu leur croyance à cause de ce qu'ils entendaient dans les universités séculaires. Et donc il avait vraiment un fardeau de créer une école où les jeunes pouvaient venir et apprendre beaucoup, mais en même temps être renforcés dans leurs croyances.
Bob Jones est une université incroyablement riche. Elle possède l'un des plus beaux musées d'art religieux aux États-Unis. Elle a ses propres avions pour former des pilotes, sa propre centrale électrique, un hôpital pour former ses infirmières et ses médecins. Mais tous ces apprentissages passent par le filtre de la foi chrétienne.
Nous avons un point de vue, une perspective où nos croyances en Dieu font partie de tout ce que nous faisons, tout ce que nous croyons. Et donc, un Dieu créateur a créé un monde scientifiquement merveilleux. Et donc, quand nous enseignons soit l'histoire, soit les sciences, soit les mathématiques, on enseigne d'un point de vue biblique d'un Dieu créateur.
Par exemple, quand vous enseignez en sciences naturelles la création du monde, est-ce que vous enseignez le darwinisme ou le créationnisme ou les deux?
On enseigne les deux, mais on mentionne le fait que le darwinisme n'est qu'une théorie.
Sur le campus de Bob Jones, on voit beaucoup de couples.
À vrai dire, il y a beaucoup qui viennent ici, non seulement pour leur formation, mais pour trouver l'époux ou l'épouse pour la vie qui a les mêmes croyances.
L'un de ces couples est en train d'étudier dans une salle de la cafétéria.
Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, mais je sais que le Seigneur mettra en place ce qu'il veut que je fasse. J'aimerais évangéliser. À l'origine, mon projet en venant ici était d'aller d'église en église pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mon cœur se tourne aussi vers la vocation de missionnaire, peut-être vers les Caraïbes. Mais j'ai aussi appris à faire de la radio et je voudrais mettre cette formation au service du Seigneur dans le domaine des missions.
Servir est une notion évangélique qui transcende l'orientation politique. Gracie et Peter Rosenberger sont de ceux dont la foi a été éprouvée. Il y a 25 ans, la voiture de Gracie a quitté la route entre Memphis et Nashville pour aller s'encastrer dans un petit mur de pierre.
Cela vous donne à penser, « Oh mon Dieu, est-ce que vous n'auriez pas pu m'aider à aller juste un mètre plus loin, juste quelques mètres plus près ou plus loin ? Cela aurait été bien. »
Gracie, qui avait 17 ans à l'époque, est sortie de cet accident, le corps broyé, mais la foi intacte.
Le matin où je suis montée dans ma voiture, j'ai prié. « Seigneur, continue à faire de moi la femme que tu veux que je sois. » J'avais fait cette prière pendant les 6 derniers mois avant de faire ce voyage. Je suis montée dans ma voiture, j'étais en train d'écrire une chanson tout en conduisant. C'est un de ces moments où l'on pense qu'on est immortel. J'étais chrétienne, j'essayais de vivre comme il faut et je pensais que rien n'allait m'arriver. Dieu allait sûrement me protéger.
Gracie a passé une année à l'hôpital, subit des dizaines d'opérations. Lourdement handicapée, elle a repris ses études de musique, est devenue chanteuse de country et a épousé un musicien, Peter. Ils ont eu 2 enfants et alors que Gracie était enceinte du second, l'ultime tragédie est arrivée. Les médecins ont dû finir par amputer ses 2 jambes irrémédiablement endommagées 12 ans plus tôt lors de l'accident.
Quand j'ai eu ma deuxième jambe amputée en 1995, j'étais couchée 3 jours après avoir perdu ma jambe gauche. J'étais pour la première fois une double amputée. Mes 2 jambes étaient parties. Dans mon lit, je regardais un documentaire sur la princesse Diana et à l'époque, elle venait de lancer une nouvelle œuvre pour les victimes des mines terrestres. J'ai vu cela et immédiatement, quelque chose est monté en moi. Peter était dans ma chambre et je lui ai dit, « C'est ce que je dois faire du reste de ma vie. Je dois aller dans d'autres pays, partout où ils me laisseront aller, et je dois les aider à comprendre qu'ils sont aussi importants aux yeux de Dieu que je le suis moi-même. »
Are just as important to God as I am. Peter et Gracie ont alors fondé Standing in Hope, une association qui fournit des jambes artificielles à des amputés du tiers-monde.
Je crois fermement que nous exerçons un ministère à travers nos blessures, à travers Dieu qui nous a conduits dans notre douloureux voyage. Dans notre cas, après que Gracie ait perdu ses jambes, nous avons ressenti un besoin et une ouverture. Comment peut-on prêcher à quelqu'un et le laisser sortir en rampant ?
Peter et Gracie travaillent actuellement avec le gouvernement du Ghana, où ils ont ouvert plusieurs cliniques pour fournir à des amputés des prothèses de haute technologie, comme celles dont bénéficie Gracie. Comme tous les évangélistes, ils pensent que leur mission est aussi de répandre la bonne parole, mais ils le font à leur manière.
Il y a quelqu'un qui est venu me voir l'année dernière au Ghana et qui m'a dit, est-ce qu'il faut dire qu'on est chrétien pour avoir droit à une de vos jambes? La façon dont je partage ma foi avec eux n'est pas différente de la façon dont je partage mes jambes avec eux. Le Dieu qui se soucie assez de ma vie pour m'envoyer parmi eux est celui qui leur redonne une jambe.
L'un des aspects les plus surprenants de ce prosélytisme est le lien des églises évangéliques avec Israël. Ce dimanche, à l'église de Belmont, à Nashville, plusieurs centaines de personnes appartenant à diverses dénominations étaient réunies à l'appel du pasteur Don Finto, grand promoteur de ce mouvement.
J'étais pasteur de cette église et des juifs ont commencé à embrasser notre foi en Jésus et ils ont commencé à me forcer à m'interroger. L'un d'eux m'a dit, sommes-nous greffés sur vous ou êtes-vous venus nous greffer sur vous? Et bien sûr, la réponse est que nous sommes venus nous greffer sur eux. Les juifs sont la racine de la foi. Ils sont ceux qui sont à l'origine de la foi, dont Abraham, Isaac et Jacob, et c'était leur Messie.
Le soutien à Israël est une caractéristique montante des églises évangéliques et il inspire largement les prises de position des candidats aux élections.
Ce serait vraiment un élément déterminant pour moi si un candidat soutenait Israël et l'autre pas. Car Dieu nous dit dans le chapitre 12 de la Genèse, ceux qui bénissent Israël seront bénis.
Les chrétiens évangéliques mettent la plupart du temps une autre précondition à leur vote. C'est ce que l'on appelle la politique en faveur de la vie, la promesse d'interdire l'avortement. Peter Rosenberger.
Most evangelical Christians in their true nature are going to be pro-life.
La plupart des chrétiens évangéliques, par leur nature même, défendent le mouvement pour la vie et ils ont été très déçus par le courant modéré qui est arrivé dans le Parti républicain. Les Écritures disent très clairement quand commence la vie. La vie ne commence pas avant la naissance du bébé ou quand la mère pense qu'il est acceptable de laisser vivre ce bébé. La vie commence en fait avant même la conception. Les Écritures le disent. Les chrétiens évangéliques, par définition, s'ils croient en ce qui est écrit dans la Bible, sont hostiles à l'avortement.
Pour le professeur Gachet, la question de l'avortement est devenue une vraie machine à attraper les votes.
Je pense que les électeurs évangéliques blancs ont été, élection après élection, leurrés par des candidats, par des politiciens qui leur ont dit « Votez pour moi, je vous débarrasserai de l'avortement ». Mais cela n'est jamais arrivé et je pense que même s'il y avait une tentative cette fois, si les 4 ou 8 prochaines années seraient passées à essayer de faire avancer ce dossier, eh bien au bout du compte, je ne vois pas vraiment comment cela pourrait réduire le nombre des avortements.
Mais le professeur Gachi pense que la vraie ligne de partage est le combat pour les droits de l'homme. Il est lui-même à l'origine d'un manifeste évangélique contre la torture.
Dans notre combat contre la torture pratiquée par le gouvernement américain, je pense que nous avons vraiment découvert où se situent les lignes de fracture. Dans le travail que nous avons fait, à la fois pour le manifeste contre la torture et d'autres formes de militantisme où nous essayons de faire signer des pétitions aux gens, nous avons trouvé un énorme soutien parmi la gauche évangélique et aussi au centre, mais jamais le moindre support de la part des gens qui sont à droite.
Les évangéliques de tous bords sont en revanche en train de se rejoindre sur un dossier, celui de l'environnement. Par exemple, la très conservatrice université Bob Jones en a fait l'une des règles de son campus.
La Bible nous dit, Dieu a créé le monde, il a mis Adam et Ève dans le jardin pour tenir le jardin. Et donc nous voyons bibliquement que c'est notre responsabilité de gérer la création de Dieu. Et donc, si on jette par terre des choses, si on ne fait pas le recyclage, ce n'est pas vivre d'une façon responsable.
C'est aussi le combat personnel du docteur Durley, pasteur noir progressiste. Lorsqu'il s'adresse aux écologistes traditionnels, il leur donne à entendre qu'ils auraient beaucoup à apprendre de l'enthousiasme évangélique.
You people in the environmental movement.
Vous, les gens du mouvement écologique, vous êtes très forts sur le plan scientifique. Vous êtes très intelligents sur ce plan-là. Vous savez tout. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes très ennuyeux, vous êtes terne, vous êtes sec. Cela sera différent si la communauté religieuse vous rejoint, car nous, toutes les semaines, nous sommes enthousiastes, nous avons besoin d'être enthousiastes, nous vendrons le paradis dont personne ne sait où il se trouve, nous vendrons l'amour quand il y a de la haine partout autour de nous, nous vendons de l'espoir quand tout le monde a envie de baisser les bras. Nous devons vendre quelque chose et nous avons à montrer que cela nous enthousiasme. Et vous, vous êtes là à dire « le climat se détériore ». Oui, bon, d'accord, mais c'est quand nous joindrons nos forces que nous aurons une chance de nous en tirer.
Au milieu de tant d'éléments de choix, le vote évangélique n'est ni acquis à un candidat, ni uniforme.
Tic-tac, flip-flop, tic-tac, flip-flop, Obama is the candidate for change, for change. Ask him a question, give a little time, and Barack Obama's point of view will change, will change.
Dans son studio de Nashville, Bob Farnworth travaille à une chanson pour illustrer une publicité de campagne du Parti républicain. Chrétien évangélique et conservateur, il produit des jingles publicitaires et en période électorale, il donne volontiers un coup de main au Parti républicain.
D'abord, laissez-moi vous dire que la chanson que j'écris est une satire sur Obama. C'est fait pour être drôle, vous l'avez entendu, c'est pas du mauvais esprit. D'une certaine façon, j'aurais vraiment voulu que Condoleezza ou Colin Powell soient candidats. Parce que je me dis, est-ce que ce serait pas fantastique si avec cette élection, on pouvait en avoir fini avec ces problèmes de race, mais au moins avec quelqu'un qui a des positions conservatrices plutôt qu'Obama. Obama me semble être quelqu'un de très bien, mais ses positions, de mon point de vue, penchent vers le socialisme. Et je pense que le socialisme, c'est bien la dernière chose dont les États-Unis ont besoin en ce moment.
En 1976, le vote des chrétiens évangéliques a poussé à la Maison-Blanche l'un des leurs, Jimmy Carter. Cette année, un quart des chrétiens blancs évangéliques devraient voter démocrate. Le professeur Gashi en fait partie.
Dans cette élection, ce que McCain représentait avant qu'il soit candidat parlait beaucoup en sa faveur. Il s'était opposé à la torture, il s'était penché sur le changement climatique, il se préoccupait d'une réforme pour rendre l'immigration plus humaine, et cela le rendait préférable à la plupart des autres candidats républicains. J'ai été content quand il a été choisi comme candidat. Il s'était aussi prononcé contre l'avortement, donc il paraissait très attirant. Mais je pense que vous devez aussi prendre en compte le caractère de la personne et voir s'ils ont les qualités nécessaires pour réussir dans leur fonction. J'ai vu un McCain qui semblait brouillon et impulsif dans la conduite de sa campagne et qui a pris un virage à droite pour consolider sa base, ce qui était beaucoup moins attirant. Je pense aussi que le choix de Sarah Palin a été catastrophique. Obama, d'un autre côté, ne me donne pas ce que j'attendrais sur le plan du droit à l'avortement, mais sur la plupart des autres questions, je vois des prises de position que j'ai moi-même défendues depuis longtemps. Je vois aussi une stabilité et un sang-froid face aux problèmes que notre pays doit affronter, et donc je voterai pour Obama.
Reportage, Anne Toulouse, réalisation, Marc Minatel.